Merci d'écouter RFI, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous.
L'Organisation mondiale de la santé publie son rapport annuel sur le paludisme. La maladie a tué 627 000 personnes en 2020, un nombre en hausse par rapport à l'année précédente.
Et puis Israël cherche à convaincre les États-Unis d'attaquer l'Iran. Objectif, freiner le développement du programme nucléaire de la République islamique.
En Birmanie, l'ancienne chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi, a été condamnée à 2 ans de prison. Elle a été reconnue coupable d'incitation à la violence et de non-respect des règles contre le Covid-19.
Et puis enfin, on parlera, Clémentine, de tennis. La Russie a remporté hier la Coupe Davis pour la 3e fois de son histoire.
Le journal en français facile.
Avant de développer ces titres, Clémentine, un mot des États-Unis qui annonce un boycott des JO d'hiver de Pékin.
Les États-Unis n'enverront aucun représentant diplomatique lors de cette compétition sportive prévue en février prochain. La Maison-Blanche dit avoir pris cette décision en réaction, je cite, « au génocide et aux crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang, cette région de l'ouest de la Chine, où la minorité ouïghour est particulièrement persécutée par le régime de Pékin. Plusieurs organisations de défense des droits humains accusent en effet le régime chinois d'avoir interné au moins 1 million de musulmans dans des camps de rééducation. » À noter que les athlètes américains seront autorisés à participer à ces Jeux olympiques.
Le paludisme a tué 627 000 personnes en 2020.
C'est la conclusion du rapport sur le paludisme dans le monde. Il a été publié ce lundi par l'Organisation mondiale de la santé. 627 000 morts, c'est 69 000 décès de plus que l'année précédente. Et selon le rapport, les 2/3 d'entre eux sont la conséquence de la pandémie de Covid-19. L'OMS estime néanmoins que le pire a pu être évité. Explication de Jeanne Richard.
Dans son scénario catastrophe, l'OMS prévoyait que le nombre de morts dus au paludisme pourrait être multiplié par 2 après une année de crise sanitaire liée au Covid-19. Et certes, la pandémie et les confinements successifs ont engendré des perturbations dans la prévention du paludisme, avec des problèmes dans la distribution des moustiquaires imprégnés de répulsifs par exemple, ou encore dans le dépistage et l'accès au traitement, mais les pays touchés et leurs partenaires ont su réagir, se félicite l'OMS. Soulagement donc, mais pas de triomphalisme, car pour la première fois en 20 ans, les chiffres sont en nette hausse. 14 millions de cas de paludisme et 69 000 victimes supplémentaires ont été recensées par rapport à l'année précédente. Surtout depuis plusieurs années, les progrès stagnent et l'objectif de diminuer la mortalité de 90% d'ici 2030 s'éloigne. L'OMS appelle donc à redoubler d'efforts avec un espoir, le premier vaccin antipaludéen qui vient d'être officiellement recommandé. Un nouvel outil, certes imparfait avec seulement 30% d'efficacité, mais qui permettrait de sauver plusieurs dizaines de milliers de vies chaque année.
Et à noter également que l'OMS a changé cette année de méthode pour évaluer le nombre de morts du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Résultat, la maladie a fait beaucoup plus de victimes que ce qu'on pensait en 20 ans. Même si, sur cette période, la mortalité a tout de même baissé de moitié.
Sur le front de la lutte contre le Covid-19, la France renforce son dispositif sanitaire.
Le Premier ministre Jean Castex a annoncé en début de soirée une série de mesures pour freiner la 5e vague. Les discothèques seront par exemple fermées pendant 4 semaines. Le protocole sanitaire sera également rehaussé au niveau 3 dans les écoles primaires. Autrement dit, le port du masque sera obligatoire dans les cours d'école. Les sports de contact seront aussi limités. Le chef du gouvernement appelle enfin les Français à limiter les interactions sociales.
Israël se montre déterminé à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.
Oui, le chef du Mossad, les services de renseignement israéliens, est actuellement en visite à Washington, aux États-Unis. Le ministre israélien de la Défense doit aussi se rendre sur place en fin de semaine. Leur objectif, convaincre la Maison-Blanche d'attaquer l'Iran. À Jérusalem, Sami Bourlifa.
Avant une éventuelle offensive armée contre l'Iran, c'est une offensive diplomatique qu'ont lancé les Israéliens. Depuis plusieurs semaines, les responsables de l'État hébreu font la tournée des grandes puissances. Leur but, s'assurer du soutien des pays amis en cas de guerre contre l'Iran. Sans succès pour le moment. Alors, une nouvelle fois, les Israéliens se tournent vers l'allié de toujours, Washington. Israël est certes un poids lourd militaire au Moyen-Orient, mais c'est en grande partie grâce aux États-Unis. Pour mener à bien une offensive armée contre l'Iran, l'État hébreu a besoin de bombardiers et surtout de missiles. Perforants, des missiles capables de détruire les imposantes structures en béton armé qui protègent les installations militaires iraniennes. Mais les Américains n'ont toujours pas fourni cet armement aux Israéliens, confie une source diplomatique proche du dossier. Cela explique l'agitation tous azimuts des responsables de l'État hébreu, rajoute cette même source. Le directeur du Mossad est actuellement à Washington. Il y sera rejoint ce jeudi par le ministre de la Défense israélien. Sami Bourlifa, Jérusalem. RFI.
En Éthiopie, le gouvernement affirme avoir repris les villes clés de Dessie et Kambolcha dans le nord du pays.
Le service de communication du gouvernement éthiopien assure que les deux villes ont été libérées par les forces de sécurité. Il y a un mois, les rebelles du TPLF en avaient pris le contrôle et menaçaient de prendre la capitale, Addis Abeba. Leur chef Debretsion Gebre Michael s'est exprimé hier. Il a démenti le fait que le gouvernement était en train de reprendre l'avantage.
En Birmanie, l'ancienne chef du gouvernement Aung San Suu Kyi, condamnée à 2 ans de prison.
L'annonce de sa peine est tombée ce matin. Aung San Suu Kyi a d'abord été condamnée à 4 ans de prison pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires. Plus tard dans la journée, la junte a réduit sa peine à 2 ans d'emprisonnement. L'ancienne dirigeante et prix Nobel de la paix est assignée à résidence depuis le coup d'état militaire du 1er février dernier. C'est la première condamnation prononcée dans un procès au long cours. Pour la population birmane, la junte cherche à priver l'ancienne conseillère d'État de toute vie politique et d'autres condamnations seraient attendues dans les prochains mois. Juliette Verlin.
On l'a appris ce matin, Aung San Suu Kyi et le président de la Birmanie, U Win Myint, ont été condamnés pour 2 des accusations qui leur sont portées, incitation à la violence et infraction de la loi de protection contre le Covid-19 lors de leur campagne en fin d'année dernière. C'est la première sentence à tomber parmi les 11 accusations dont Aung San Suu Kyi fait l'objet, et après des mois d'un procès qui dure. Si elle était condamnée pour chacune de ces accusations, l'ancienne conseillère d'État finirait sa vie en prison. Elle est actuellement retenue à domicile dans la capitale Naypyidaw, loin des médias et de son peuple, avec qui elle n'a de contact qu'à travers son avocat. Ce dernier n'a d'ailleurs plus le droit de s'exprimer publiquement sur le contenu des audiences, ce qui rend ce procès complètement fermé, très compliqué à suivre pour la population. D'après les activistes birmans, la junte fait durer le procès et multiplie les accusations contre Aung San Suu Kyi dans le but de l'exclure de toute vie politique à l'avenir. Celle qu'on appelle la dame a aujourd'hui 76 ans, et pour les birmans, il est peu probable qu'elle retrouve un jour la liberté. Juliette Verlin, Rangoon, RFI.
Allez, en tennis, Clémentine, la Russie a remporté hier la Coupe Davis pour la 3e fois de son histoire.
Oui, à l'issue de 10 jours de compétition, l'équipe emmenée par Daniil Medvedev a facilement battu la Croatie 2-0 lors de la finale à Madrid en Espagne. Un sacre vécu dans un relatif anonymat. Éric Mamrut.
Dans le monde d'avant, celui qui apportait le point du sacre à son pays était subitement enseveli par une véritable marée humaine. L'ensemble de l'équipe venait fêter son héros, la balle de match à peine achevée, dans un stade qui chavirait de bonheur. Hier à Madrid, le toujours très sobre Daniil Medvedev a eu tout le temps de saluer son adversaire battu, Marin Cilic, l'arbitre, le capitaine croate, le public espagnol, avant de se diriger tranquillement vers ses coéquipiers Andrei Rublev, Karen Khachanov et Aslan Karachev pour les étreindre brièvement, le tout dans une arène de Madrid bien calme, puisque l'équipe d'Espagne, contrairement à 2019, n'était pas en finale. C'est le non-charme de cette nouvelle formule sur terrain neutre qui divise et indiffère plutôt qu'elle ne passionne. L'essentiel des rencontres de cette phase finale et de la phase de poule se sont en effet déroulées dans des ambiances moroses, faute de supporters. Une nouvelle Coupe Davis qui, malgré la réclamation de plusieurs joueurs et capitaines, vient d'être reconduite par la Fédération internationale et son sponsor associé, celui du footballeur Gérard Piqué, à la nuance près qu'en 2020, 5 villes au lieu de 3 cette année accueilleront la phase finale, sa conclusion se déroulant très certainement à Abu Dhabi. Bref, toujours le choix de l'argent plutôt que celui de la tradition et du spectacle.
C'était Éric Mamrut sur RFI. Très belle soirée à tous.
7 milliards de voisins.